Libre-échange.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes sur Libre-Échange sur Assouat et comme chaque semaine, nous traitons d'un sujet qui touche la vie des entreprises, la vie de l'économie et l'actualité dans notre pays. Sujet un peu délicat et même grave puisque, et je le remercie d'avoir accepté l'invitation, nous recevons Didier Lamblin, le président directeur général de Centrale Laitière, Centrale Danone on dit maintenant, moi je suis un peu vieille école.
Merci.
Et merci d'avoir accepté l'invitation et pour représenter la vie éco, c'est Mehdi Jouari qui a fait le déplacement. Ça va, mon cher Mehdi ?
Ça va très, très
ça
bien.
Ça se passe bien avec le ramadan ?
Alhamdoulilah.
Bon, bien. Parfait. On va évoquer avec vous un peu cette actualité qui touche vos produits, touche votre marque et votre entreprise. Évidemment, on va essayer de traiter ces sujets avec réalisme, sans tabou, et parce que vous avez accepté d'en parler et permettre aussi aux auditrices, aux auditeurs d'Assouat de mieux apprécier la situation. J'aimerais vous poser, Didier Lamblin, une question extrêmement simple pour commencer, si vous le voulez bien. Pourquoi Centrale Danone ?
Écoutez, c'est une question qu'on se pose aussi, c'est qu'on considère quelque part qu'on est une victime collatérale de ce conflit, puisque ce conflit est parti sur la cherté de la vie, et Centrale Danone, depuis 5 ans, n'a pas augmenté ses prix au Maroc, pas augmenté sur les frais, mais pas augmenté sur aucun de ses produits.
Alors on a choisi un produit, une entreprise qui fait des produits laitiers, c'est parce que vous êtes le leader, vous êtes le premier de votre secteur?
Oui, on est le premier, on est fiers d'être leader de ce marché, mais c'est aussi une forte responsabilité que je porte, y compris en étant le président de la filière, pour travailler, pour développer aussi le professionnalisme et les technicités et les revenus de nos éleveurs au niveau du Maroc. Et leader veut dire une responsabilité sur le fait de montrer l'exemple.
Alors vous avez décidé de parler aux médias depuis un certain nombre de semaines et votre entreprise particulièrement par rapport aux autres entreprises sont malmenées par cet appel au boycott. Pourquoi vous avez décidé de vous exprimer et pourquoi vous acceptez même de venir dans un studio échanger avec nous ?
Écoutez, d'abord parce que je pense qu'on est une entreprise qui se veut être proche, humaine, transparente et dire simplement les choses. La deuxième chose, on est une société cotée à Casa. On a, c'est vrai, que 0,3% de flottant, 99,7% c'est la propriété du groupe Danone, mais on est aussi une entreprise cotée internationalement. Et on se doit aussi de communiquer pour dire à ceux qui nous permettent de fonctionner, les actionnaires, les informations et la réalité de l'entreprise. Donc c'est pour cela qu'on parle aussi simplement. Et on a lundi, comme vous le savez, lundi matin, malheureusement, communiquer un avertissement sur nos résultats qui est douloureux.
Alors, je rappelle, vous êtes donc coté à la Bourse de Casablanca, même si la part de votre capital qui est sur la place boursière de Casablanca n'est pas importante. Et vous avez fait un profit warning et vous annoncez une perte de 150 millions de dirhams. Nous sommes au premier semestre et en général, le premier semestre d'une année d'activité, c'est un semestre où on essaie d'installer les choses. Comment réagit le marché ?
Écoutez, le marché avait déjà réagi avant cette annonce. Donc le marché avait déjà réagi. Ce qui est clair, c'est qu'on a, depuis le début du boycott, une perte de chiffre d'affaires de 50%, donc depuis le 20 avril. Donc c'est très, très significatif. C'est qui a entraîné un retournement d'une rentabilité qui était déjà faible, puisqu'on avait l'année dernière, à la même période, sur le premier semestre, fait 58 millions de dirhams de résultats pour une société qui facture près de 7 milliards de dirhams. Donc c'est vraiment très peu de choses. Et là, on passe dans une perte de 150 millions. Donc c'est un retournement brutal. Il n'empêche qu'on reste confiant et qu'on continue à travailler, à développer des plans pour quelque part réactiver le consommateur, pour quelque part occuper nos rayons le mieux possible avec des offres d'été, avec des offres pour la rentrée. On continue à réfléchir, à innover, parce qu'on est ici depuis 70 ans. Et même si l'actualité est dure et spéciale pour nous, parce que c'est vraiment, encore une fois, une victime collatérale, on a envie de continuer à vivre et de se battre.
Mais déjà, allez, la vie est quoi ?
Alors, j'aimerais juste revenir sur votre communication financière. Donc, comment se fait-il qu'une baisse de 20% du chiffre d'affaires engendre une chute de 300% du résultat ? Et on se demande tous qui a récupéré vos parts de marché ?
Alors, vous savez, on est une entreprise où 80% de nos coûts sont fixes. On a 5 usines, on a le plus gros réseau de distribution du pays, 38 plateformes, on a 1200 camions. Donc on a une force de vente qui circule tous les jours dans le pays, 24 000 km hein, pour quelque part vendre nos produits au plus profond du Maroc. On a une flotte de collecte qui collecte tous les jours, 120 000 éleveurs, parce que le lait frais n'attend pas. Mmh. Tout ça, c'est...
Mais vous avez annoncé que vous ne collectiez plus tous les jours, tout le temps, partout ?
Alors, on a annoncé, suite à la baisse significative de l'activité, qu'on mettait en rotation 30% de notre collecte sur un espace de 3 jours en coupure, puisqu'on ne pouvait malheureusement plus collecter. Et on a annoncé que malheureusement, en termes de première mesure, on devait mettre fin à des contrats d'intérim de courte durée, et ça touche de l'ordre de 850 personnes.
Oui, justement, beaucoup d'observateurs se demandent, est-ce que c'est normal pour une société comme Centrale Danone ait déjà un sur 7 de ses salariés qui sont des intérimaires?
Vous savez, on est dans un métier qui est cyclique. D'abord, ça vient du rythme de la vache.
Vous avez combien de salariés?
On a 6 000, à peu près 6 000 salariés.
6 000 salariés, et vous avez 800 intérimaires?
Alors, on a 800...
Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là?
Alors, les intérimaires, ce sont des gens qui sont soit des saisonniers, et en particulier en période de Ramadan, où normalement, les volumes de consommation, et en particulier augmente. Sur le lait et le fromage, doublent, voire sont multipliés par 2,5, on est obligé, sur un mois, d'avoir l'outil de production, d'avoir les volumes de lait, mais aussi les équipes spécifiques. Et à ce titre, on fait appel à des intérimaires. Donc, c'est très lié. Le mois de Ramadan... Les choses changeront peut-être, mais le mois de Ramadan est le plus gros mois de consommation des produits laitiers.
Et donc ces intérimaires, aujourd'hui, vous mettez fin à leur contrat, leur relation avec l'entreprise, compte tenu de la situation?
Oui.
Et quelles sont les autres mesures que vous avez prises dans le même sens?
Alors, ce que je voudrais d'abord dire concernant ces intérimaires, vous savez, pour moi, à partir du moment où une personne a travaillé 5 jours, 10 jours, un mois, j'ai du respect pour cette personne, parce qu'elle a quelque part apporté sa patte à nos produits. Et vous avez pu entendre que l'autre jour, au journal télévisé, j'ai demandé aux 3 patrons de nos sociétés d'intérim de prioriser le reclassement de nos intérimaires, qui sont des salariés qui ont du mérite, mais que nous ne pouvons pas garder eu égard à la baisse d'activité brutale qu'on subit suite à ce boycott.
Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de réduire les charges sans toucher aux emplois et à la collecte? Est-ce que c'était une décision... inévitable?
Écoutez, quand vous avez une baisse d'activité qui maintenant, on a annoncé depuis lundi, qui est de 50%, on ne peut pas continuer. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. On a attendu 5 semaines. On a cru que les choses allaient se débloquer. Mais on a séché. Et aujourd'hui, j'ai des volumes de poudre pour beaucoup de temps. On a fait produire l'UHT. Notre usine d'Al Jadida a tourné à fond pour produire de l'UHT.
Donc vous avez du stock aujourd'hui?
On a du stock. On a exporté, pas encore suffisamment, mais à un moment donné, quand tout est plein, vous ne pouvez plus collecter. Vous ne pouvez plus collecter. Quand quelque part, vous êtes... On était leader du marché, en 4 semaines de temps, Jaouda est devenu leader du marché. C'est lui le leader. Il est devenu leader.
Est-ce que les autres concurrents ne vous ont pas proposé de récupérer le lait invendu?
Écoutez, les concurrents nous ont aidés marginalement sur ce projet. Une société comme le Colénor nous a aidés plus que la moyenne. Mais c'est parce qu'ils ont séché pour nous du lait. Mais globalement, quand vous collectez 55% du lait marocain, que vous avez votre activité qui est à moins 50...
Vous avez une partie du lait qui reste sur les bras.
Qui reste sur les bras, et très très significative. Et ce lait, nos concurrents ne nous ont pas proposé de reprendre le lait Centrale pour produire les volumes qu'ils ont conquis, puisque maintenant, Jaouda est le leader du marché.
Didier Lamblin, je rappelle à nos auditrices et aux auditeurs que vous êtes le président-directeur général de Centrale Danone et que vous êtes avec nous dans les studios d'Assouad, dans Libre-Échange. On essaie de faire le tour d'horizon avec vous de cette situation et de comprendre aussi comment est-ce que les choses pourraient évoluer. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut apprécier l'impact sur les éleveurs?
Alors, les éleveurs marocains, et ça c'est un élément très important à expliquer. L'élevage au Maroc est un petit élevage, de familial. Nos éleveurs, on en a 120 000. 95% de nos éleveurs ont moins de 5 vaches. En moyenne, ils ont entre 3 et 5 vaches. En moyenne, ils ont 2 à 3 hectares de culture. Et le projet de Centrale Danone, a été un projet de travailler exclusivement avec du lait marocain, hein, et de produire avec du lait marocain. Et nos projets, vous avez dû suivre dans les SIAM précédents, le projet Felabladi, où on a embarqué 1600 de nos éleveurs de la région de Doukala pour faire un test et mesurer la capacité en les formant.
Avec
les
un budget de, oui, je crois, de plus de 800 millions.
Ça, ça vous parlait du projet que j'ai présenté cette année. Hein, mais on a d'abord démarré par un petit projet, un petit pilote, parce que ce pilote a marché. On a démontré au ministère que ce projet marchait. Donc on a dit, maintenant, on a envie de s'embarquer sur 20 000 de nos 120 000 producteurs, avec un engagement ferme, en 50 ans, de doubler leurs revenus. Leurs revenus, non pas en augmentation, le prix du lait aux paysans, parce que si je l'augmente, à ce moment-là, je dois le répercuter aux consommateurs.
Oui, bien sûr.
Et donc, en doublant leurs revenus, comment ? Par une meilleure génétique, par une meilleure alimentation, par une utilisation moindre d'eau, par une moindre dépendance des traders, en les aidant à avoir des cultures intelligentes sur leurs 2 ou 3 hectares, avec même des rotations qu'on était en train de réfléchir avec Cosumar pour quelque part se dire on fait d'abord telle céréale, ensuite on fait de la betterave, ensuite, parce qu'on a aussi la volonté de le faire avec un respect de la terre.
En tant qu'agrégateur, d'une certaine
manière.
Exactement,
en tant qu'agrégateur.
Pour puissiez amener ces... Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des familles qui souffrent déjà de la situation ?
Écoutez, en moyenne, un producteur de lait, il a les petits producteurs.
Si vous ne lui collectez pas le lait, qui va le collecter ? Est-ce qu'il a d'autres possibilités de vendre son lait ou pas ?
Écoutez, ce qui peut arriver, c'est qu'il le vende à des traders et c'est vendu après comme du lait de colportage.
Ouais.
Et que ça devient du lait qui est vendu dans des conditions sanitaires qui ne sont pas satisfaisantes.
On reviendra à 45 ans ou 50 ans.
Voilà, et on revient et on a investi des cathédrales.
Du lait vendu sur le vélo.
Voilà, et on a investi des cathédrales pour créer des usines avec tout le process de pasteurisation, des chaînes de froid et tout. Revenir à ce niveau-là. Et c'est dangereux pour les consommateurs premiers de nos produits que sont les enfants.
Oui. Didier Lamblin, j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui à la situation de vos équipes sur le terrain quand elles travaillent. Vous nous expliquiez qu'elles étaient souvent malmenées avant de rentrer en studio. Quelle est exactement la situation et que se passe-t-il concrètement ?
Alors, c'est un sujet qui m'a donné énormément de peine, puisque j'ai 9 de mes salariés, 9 vendeurs, qui ont été directement attaqués. 2 à l'arme blanche, plusieurs avec des tessons de bouteille, des gens qui ont pris des coups. Donc, et ces gens...
Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces gens ?
On leur reproche de porter le maillot Centrale Danone et de livrer des produits Centrale Danone, parce que ce sont des gens qui visitent tous les jours 80 points de vente, dans une tournée avec 3 personnes, 2 personnes à bord du camion, pour livrer le lait frais et livrer l'ensemble du portefeuille Danone. Et quelque part, on leur reproche, quelque part, de livrer un produit qui est aujourd'hui boycotté. Et au-delà des violences physiques qui ont eu lieu et sur lesquelles les autorités ont réagi, moi, ce qui me travaille le plus, c'est le harcèlement moral dont ces personnes font preuve.
Par exemple ?
Dans les quartiers, où des gens sont en train de livrer et ils reçoivent des mots qui sont à peine recevables. Et on est tous des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Et moi, ça me fait très peur par rapport à la fragilisation d'un
être
humain.
Est-ce que c'est généralisé, ce phénomène-là ?
Il n'est pas généralisé. Il se passe dans différents endroits du pays. Il se passe dans différents quartiers. Il continue à se passer. Quand vous allez voir les épiceries, parce que j'ai été moi-même écouté sur le terrain, vous avez des consommateurs qui sortent avec le litre de Centrale, le demi-litre de Centrale Danone dans un papier journal. Ils le cachent.
Ouais.
Il y a une consommatrice à Marrakech qui, quelque part, montrait qu'elle sortait. Elle s'est fait piquer par une seringue. Hein ? Donc, il y a des choses qui sont aujourd'hui qui dépassent l'entendement. Qu'il y ait d'ailleurs ce boycott, quelque chose à exprimer, je peux l'accepter. Je peux l'accepter. J'avais moi-même, il y a 3 ans, tiré les conséquences de ma première tournée dans le pays en mesurant que, quelque part, il fallait aider le pouvoir d'achat de certaines parties du pays. Et c'est pour ça que je n'avais pas augmenté mes prix. Et c'est pour ça que je me suis engagé, dans ma première participation à l'Économiste, à ne pas augmenter les prix pendant 2 ans. Je démarre ma 3e année, je n'ai toujours pas augmenté mes prix. Pour, quelque part, faire en sorte que la mission de Danone, qui a porté la santé par la nutrition...
Qu'est-ce qu'on vous reproche, finalement ?
Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que on est sur un reproche qui est collatéral. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Quand quelque part on a voulu faire un geste ramadanesque dans cette période du Ramadan et dans lequel le lait est sacré et le lait fait partie de la table de n'importe quelle famille marocaine, et qu'on a fait une offre qui était inédite dans son ampleur, dans sa forme, adaptée à l'épicier. Cette opération commençait à bien marcher. Les trois premières journées de vente montraient une belle reprise. Et puis sont arrivées toutes ces fake news sur la qualité. Un déversement de fake news.
Beaucoup de fausses informations.
Mais attendez.
Par exemple, donnez-nous quelques exemples. On va dépasser le temps d'antenne, mais ça mérite
d'être
quelque fait.
Quelque part, on dit, vous faites des promos avec du lait frelaté. Que vous faites des promos avec du lait de produits qui sont périmés. Comment peut-on imaginer, de la part de Danone, qui est un opérateur mondial, qui est le leader mondial des produits laitiers, qui est une société qui...
Votre entreprise est contrôlée par l'État. Il y a des systèmes de contrôle de la qualité aussi. Vous rendez compte. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous rendez compte...
Mais vous savez, on a déjà nos autocontrôles et vous ne pouvez pas imaginer le million de tests qu'on fait nous-mêmes. Parce que d'abord, on s'autocontrôle. On a toutes les certifications mondiales et marocaines. Mais au-delà de ça, l'ONSA contrôle régulièrement notre entreprise. Et ces contrôles sont faits de façon inopinée.
Mais
à la collecte jusqu'aux produits livrés chez l'épicier.
Allez, mais déjà, allez, la vie est
courte. J'aimerais juste revenir sur la question des prix et des marges. Donc, aujourd'hui, les boycotteurs, ils exigent une baisse des prix. Est-ce que c'est une option impossible? Il y a beaucoup de gens ici qui font un parallèle avec une décision que vous avez prise en Chine de baisser les prix. Est-ce que c'est une option impossible pour vous?
Écoutez, d'abord...
Où est-elle possible?
Écoutez, elle est complètement impossible. Aujourd'hui, dans l'état des lieux actuel, je l'ai dit sur le lait frais, aujourd'hui, notre marge brute, elle est sur un pack de 475 ml. Elle est de 7 centimes de dirham. Donc on voit bien la faible marge qu'on a. Et cette marge ne couvre même pas les coûts marketing, les coûts de force de vente et les coûts de siège. Donc on est sur un produit qui est un produit de santé publique. De service public.
Et aussi la marge sur les produits dérivés qui est plus intéressante.
Alors, elle est plus intéressante, mais heureusement. Mais regardez aujourd'hui quelle est la rentabilité moyenne de Centrale Danone sur les trois dernières années à la Bourse de Casa. Nos chiffres sont connus. On est à moins de 3%. Donc, on n'est pas une entreprise qui est avec des niveaux de rentabilité et des niveaux de profitabilité qui sont extrêmes. Mais parce qu'en particulier, on a décidé de travailler le lait avec toute la noblesse qui est derrière le lait et avec tout le sérieux. Encore l'année dernière, j'ai investi 60 millions de dirhams à l'usine d'Al Jadida pour mettre en place la plus belle technologie de machine de conditionnement de lait pasteurisé. Et on est au standard international de Danone au Maroc. Et on l'est aux États-Unis, on l'est au Brésil, on l'est en Chine, on l'est en Inde, quel que soit le pays.
Didier Lambla, vous nous rappelez que Centrale Danone appartient... pratiquement à 100% un groupe international. Quelle est la place qu'occupe Centrale Danone dans le groupe Danone?
Alors Centrale Danone est l'une des grandes entreprises Danone. Elle est parmi les plus grandes entreprises du groupe Danone. Elle est, je pense, dans les 12 premières entreprises du groupe Danone. Donc c'est important. Centrale Danone, c'est aussi une amitié de 70 ans entre le Maroc et Danone.
Est-ce que cette situation est observée par votre groupe à l'international?
Écoutez, la situation, elle est bien entendu observée et vous pouvez imaginer que nous avons des contacts quotidiens sur le sujet pour suivre l'évolution. On n'a pas, à un moment donné, accompagné une société comme Centrale Danone pendant aussi longtemps. Il n'a pas été décidé, à un moment donné, quand ça a été proposé d'acquérir une société comme Centrale Danone, pour ne pas avoir le groupe qui suit et se préoccupe au quotidien, eu égard à la situation grave qui nous touche aujourd'hui. Une belle société comme la nôtre. Moi, je suis arrivé au Maroc, et quand quelque part on m'a demandé de venir ici, j'ai pris cette société avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de fierté. Prendre la responsabilité d'un joyau marocain, de la plus belle société de produits grande consommation du Maroc.
Allez, Médis Joualé, dernière question, on va vers la fin de l'émission.
Quel est l'impact sur la consommation des produits laitiers de manière générale? Donc, on sait très bien que cette consommation au Maroc est inférieure à celle des pays voisins. Et est-ce qu'il y a un risque sur la filière, sur la consommation du lait, sur ce business de manière générale?
Écoutez, on était déjà dans une profession qui était attaquée et dénigrée. Et on a eu beaucoup d'attaques, de dénigrements sur le lait, les produits laitiers, est-ce que ce sont des produits naturels, est-ce que... Tout ça a créé du mal. On avait décidé, en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et les industriels, de lancer une campagne que j'ai lancée au SIAM, qui était financée par les industriels et par le ministère, pour quelque part reconstruire toute la sécurité alimentaire Hein, toute la naturalité de nos produits et derrière le bien fondé de consommer des produits laitiers, sachant que l'Organisation mondiale de la santé, et je pense que la personne peut les remettre en cause, hein, recommande une consommation plus importante que celle qui existe au Maroc. Donc ce pays était déjà sous-consommateur de produits laitiers. Là, le coût qui est porté à Centrale Danone va certainement avoir encore un impact, hein, d'affaiblissement de la consommation et donc de l'ensemble de l'écosystème laitier marocain.
Merci Didier Lavelin. J'aurais peut-être deux petites questions très simples à vous poser avant de conclure. J'ai envie de vous demander, nous sommes à la fin de cette émission, vous avez le micro, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos consommateurs, ceux qui achètent et consomment vos produits ?
Écoutez, j'ai d'abord envie de remercier tous les consommateurs qui continuent à nous acheter, qui n'ont pas abandonné nos produits. Ils peuvent être confiants, on leur livre les meilleurs produits du marché. Et je souhaiterais dire aux boycotteurs, nous allons travailler pour faire en sorte de vous convaincre de revenir vers les meilleurs produits du marché. Des produits qui sont au standard international, qui ont une qualité organoleptique irréprochable et qui sont produits avec du lait marocain. Et avec un sourcing de toutes nos matières premières qui, à 80%, est marocain. Donc on est une société qui, sur aujourd'hui, une société internationale, mais qui est avant tout marocaine, de par son attachement à l'écosystème, de par ses achats qui se font ici. Et tout ce qu'on fait, c'est fait pour développer la richesse du Maroc. Quelque part, je suis en train de travailler sur le fait de développer la possibilité d'avoir un sourcing encore plus important de nos préparations de fruits au Maroc. Et je le travaille avec des vergers marocains, des industriels marocains. Je serais tellement dommage de laisser tomber ça, parce que derrière, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de richesses, et à la fin, c'est du revenu complémentaire pour tous les Marocains.
Merci. Vous êtes un cadre de longue date dans votre groupe.
Écoutez, j'ai 37 ans et demi dans le groupe Danone. J'ai démarré comme chauffeur-livreur-vendeur dans ce groupe. Hein, et je suis aujourd'hui...
Très belle trajectoire.
Voilà.
Aujourd'hui, cette situation, comment est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes, vous la vivez ?
Écoutez, je la vis comme quelqu'un qui se doit d'être droit dans ses bottes, responsable, combatif, pour rétablir la vérité, pour aussi écouter. C'est pour cela que je continue à aller dans les quartiers. C'est pour cela que je vais écouter mes vendeurs le soir, pour faire en sorte de prendre les décisions, les bonnes décisions, qui permettent d'assurer la pérennité de cette entreprise et son retour au meilleur niveau, un jour, dans ce pays que Danone et moi-même aimons beaucoup.
Merci Didier Lamblin. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Centrale Danone. Alors, comme j'ai dépassé le temps qui m'est donné pour Libre-Échange cette semaine, compte tenu de ce sujet exceptionnel, je ne vais pas traiter de flop. Cela, on a eu assez de discussions sur des sujets qui ne sont pas toujours très agréables. Je préférais finir notre émission par un top et saluer le travail fait dans la dématérialisation par la Direction générale des impôts qui vient d'annoncer le lancement de 5 nouvelles attestations fiscales en ligne dans le cadre de son chantier de dématérialisation des procédures engagé pour faciliter et simplifier les démarches fiscales des contribuables. Cette offre de service concerne l'attestation de revenus, l'attestation d'éligibilité de l'acquéreur à l'exonération de la TVA sur logement social, l'attestation d'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux, l'attestation du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, ainsi que celle relative à la valeur locative. C'est autant de temps en moins à passer dans les couloirs de l'administration et à traiter sur votre PC en direct de votre bureau, de chez vous, tranquillement. Il faut dire que ces téléservices sont accessibles à tous les contribuables adhérents aux services de télédéclaration, télépaiement des impôts en ligne. Ils peuvent demander aussi de obtenir des attestations par voie électronique sans avoir à se déplacer justement sur www.tax.gov.ma. Rendez-vous au même heure, même endroit sur Assoit la semaine prochaine. Je sais que je vous retrouverai pour ma part avec autant de plaisir. J'espère que vous serez aussi nombreuses et aussi nombreux que d'habitude. À la semaine prochaine.